Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Entre la fin des années 60 et le début des années 70, la musique rock vit des transformations majeures aux États-Unis. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison et d'autres disparaissent, victimes de leurs excès. Les grandes formations qui avaient accompagné les rêveries psychédéliques du mouvement hippie quelques années plus tôt se séparent ou s'enfoncent dans un long marasme. Les promesses de grandes transformations du monde comme de soi-même, qui étaient charriées un temps par le rock, ces promesses s'évanouissent, en même temps que le marché du disque se structure, se professionnalise, se rationalise. Les titres de la presse musicale évoluent dans la même direction et s'éloignent du ton très lyrique de leur récit des 60s. Mais tous les critiques ne l'entendent pas de cette oreille. C'est le cas de Lester Bangs, pilier du magazine Crime, qui tente à cette époque d'abolir la distance très convenue qui sépare les artistes et leurs intervieweurs. Avec une pincée de provocation, une dose de mauvaise foi, le journaliste ne craint pas de brûler les idoles du rock. L'une de ses grandes icônes est particulièrement évoquée dans l'émission Que voici, qui est le troisième temps d'une série de chemins de la musique autour de Lester Bangs. Cette icône, c'est Lou Reed. Le chanteur du Velvet Underground, lancé dans une carrière solo depuis le début des années 70, entretenait un lien très particulier avec le rock critique. La chose n'était pas banale, le chanteur avait une réputation épouvantable parmi les journalistes de la presse musicale. Brûler les idoles, c'est donc le titre de cette émission de Marc-Alexandre Milenvoy, diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 juin 2000.
The number you have reached has been disconnected.
I haven't thought about Lester.
Lou Reed.
In ages. I don't think any, you know. We weren't really that close.
Lester Bangs.
À la base, j'ai développé mon mode d'interview en posant aux artistes les questions les plus insultantes qui soient. Parce que le boulot de critique est terriblement ennuyeux, qu'il faut jurer obédience aux rockstars qui sont des personnes comme les autres. Ce sont des gens comme les autres. Le rock, c'est quelque chose qui doit vous faire sentir en vie. C'est quelque chose qui reste humain. Pour moi, le rock, c'est Elvis, Hank Williams ou Charlie Mingus.
J'étais de toute évidence brillant. Un artiste doué, un mâle sensible qui n'avait pas peur de montrer ses faiblesses. L'une des rares personnes comprenant réellement ce qui n'allait pas dans notre culture. Sujet sur lequel je parlais, donnais des leçons improvisées sans arrêt, surtout quand j'étais ivre, ce qui arrivait fréquemment, bien que pas tous les soirs. J'étais drôle, j'avais un sens de l'humour féroce, j'étais un individu vraiment unique et imprévisible, un artiste rock. J'étais probablement, sinon aujourd'hui, du moins demain, candidat au titre de meilleur écrivain d'Amérique. Qui était meilleur ? Bukowski ? Brooks ? Hunter Thompson ? Laissez tomber, j'étais le meilleur. Je n'écrivais pratiquement que des chroniques de disques, et encore pas tant que ça.
Lester Bangs, une esthétique du rock. Aujourd'hui, brûler les idoles.
Yeah.
pourrait penser que Lester Bangs a construit son art de la critique sur la destruction des clichés du rock'n'roll. Après la musique de Détroit, des Stooges ou du MC5, le rock change de visage. C'est le début de l'esthétique trash, l'abandon de la mélodie au profit de la violence et du bruit. À la fin des années 60, le rock avait commencé à s'enfoncer dans un long cauchemar en couleurs, le psychédélisme. En cherchant à élever leurs œuvres au rayon du classique, en multipliant les concepts albums, en se lançant dans une surenchère d'instruments, de violons, de clavecins, de cuivres, le rock a oublié ce qu'il était vraiment, une musique sauvage de la révolte. Il est devenu la victime du capitalisme. La performance n'existe plus, les concerts sont des shows totalement répétés, sans aucune place pour la spontanéité artistique. Le rock est tombé aux mains des managers, la question du « qu'ai-je à dire ?» est toujours contrebalancée par la question « combien de gens vont acheter mon disque ?» Lester Bangs et les rédacteurs de Cream s'attellent alors à désacraliser les monuments de la musique, à déboulonner les rockstars. Jim DeRogatis, auteur de Let It Blurt, une biographie de Lester Bangs.
On the one hand, he wanted musicians to be heroes, to be
d'un côté, il attendait d'un musicien qu'il soit un héros, quelqu'un sur lequel on puisse calquer sa vie, et d'un autre côté, il savait combien c'était naïf. Il était toujours surpris qu'une rockstar ne vive pas comme l'image qu'il avait d'elle. Quelqu'un comme Richard Hell n'était certainement pas l'intellectuel qu'il imaginait, mais plutôt un personnage de bande dessinée. Il y avait une interview fameuse où il lui pose des questions sur le nihilisme, sur ce côté la vie ne vaut rien. Et je pense pas que Hell avait réellement réfléchi à ces problèmes auxquels Banks le confrontait. Elle pensait seulement avoir affaire à quelqu'un qui allait l'aider à vendre son disque. Au lieu de ça, il se retrouve face à un type qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il se retrouve à parler de philosophie.
Vous ne
pouvez pas y avoir de plus beau compliment à l'art de Richard Hell, celui de le prendre au sérieux.
Lester Bangs part à la rencontre des artistes comme d'autres vont à la guerre. Sa méthode d'interview est basée sur l'assaut, l'insulte, parfois même la violence physique. Le but est d'abattre le mur qui s'est installé entre le fan et la rockstar, de faire réaliser aux artistes leur responsabilité de porte-parole de la jeunesse. Dans cette logique, Banks commence alors à brûler ses propres idoles, en commençant par Lou Reed. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says hey babe, take a walk on the wild side. Extrait du texte. Comment devenir tortionnaire sans effort, ou Lou rentre à la maison, tout est pardonné, 1976.
Lou Reed est mon héros parce qu'il incarne les choses les plus déglinguées que j'ai jamais pu imaginer. Ce qui sans doute ne témoigne que de mon manque d'imagination. Le déglingué fut le mythe héroïque au centre des 60s. Vivre vite, jouer au méchant, tout saloper, mourir jeune. Plus qu'un simple « I hope I die before I get old ». C'était là toute une démarche cool que nous adoptions ou tentions d'adopter. Ce qui était en partie lié à la non-existence absolue de héros réels, objectifs, honnêtes et droits, tête haut levée, noble, positif. Moi-même, j'ai toujours voulu imiter le pire enfoiré autodestructeur du coin aussi longtemps qu'il agissait avec une certaine classe. D'où Lou Reed. Se défoncer par procuration à diverses formes de conduite déviante compensait quelque peu la vacuité de nos propres vies tristement normales. C'est comme de ne jamais vouloir voir la réalité. C'est trop glauque d'observer quelqu'un s'injecter une quelconque merde et devenir tout bleu. Ce n'est pas la même chose que d'écouter des disques. C'est pourquoi Lou Reed était nécessaire. Et ce qui est peut-être plus important encore, c'est qu'il avait le bon sens, ou peut-être était-ce le simple effet d'une pourriture cérébrale, c'est dur à dire, de comprendre que tout le concept de sordide, décadence, dégénérescence, n'étant que plaisanterie, autant se transformer en clown et l'enfer en flaque d'eau.
Les albums du Velvet Underground fascinent Banks depuis longtemps. Le mélange d'ombre et de lumière, de mélodie et de rythme hypnotique, les paroles enfin qui peignent un portrait de l'Amérique décadente où les junkies côtoient les travestis, représentent en substance l'essentiel de ses fantasmes. Lester enchaîne les interviews de Lou Reed pour le compte du magazine Crime. Lou Reed est, c'est vrai, l'une des personnalités les plus complexes produites par le rock. Une sorte d'entité composite qui s'amuse à brouiller les pistes, maîtrisant parfaitement les techniques du masque. Ce que Lester Banks cherche à travers l'exemple de Reed, c'est l'essence même du rock. Quel est le lien qui relie des albums aussi différents que Sally Can Dance et Berlin, que Transformer et White Light, White Heat? Qui est vraiment Lou Reed? C'est ce qu'il tente de découvrir au cours d'interviews fleuves de son héros, raconté au lecteur sous la forme d'un commentaire sportif de match de boxe. Extrait du texte « Louons maintenant les célèbres nains mortifères » ou « Comment je me suis castagné avec Lou sans m'endormir une seule fois » 1975.
Lou a commencé par un compliment ambigu qui s'est transformé en insulte en plein milieu. Tu sais qu'au fond, je t'aime bien malgré moi. Le bon sens m'amène à croire que tu n'es qu'un débile, mais je ne sais comment les trucs épistémologiques que tu sors trahissent parfois le fait que tu t'exprimes par onomatopée comme un reptile cavernicole. Bon Dieu, Lou, ai-je dit d'un ton enthousiaste, tu parles comme Allen Ginsberg. Et toi, tu parles comme son père. Tu devrais faire comme Peter Orlovsky a essayé une thérapie de choc. Tu n'en sais pas plus que quand tu as commencé. En fait, tu cours après ta queue. Bon sang, c'est lui qui venait de porter le premier bon crochet du gauche. C'est ce que je m'apprêtais à te dire. Tu n'as jamais l'impression d'être une autoparodie? Non, c'est ce qui m'arriverait si je vous écoutais, vous autres connards. Vous n'êtes que des BD. D'accord, ai-je rétorqué d'un air important, perdant déjà du terrain à toute allure. Je me fous d'être une BD. Transformer était une BD qui se transcendait elle-même. Il m'a dit de la boucler, et nous sommes restés là à nous regarder d'un air mauvais, comme deux vieux blaireaux autour d'un crachoir. D'accord, ai-je dit en rassemblant toute mon esbrouffe. Maintenant, décidons si on va parler de toi ou de moi. De toi. D'accord. Tu commences. D'accord. Qui va gagner le championnat? Je ne connais foutrement rien au sport. J'ai vu Bowie l'autre jour, ai-je dit. Quelle chance tu as. Ça a dû être bien triste. Il t'a piqué tous tes plans, manifestement. J'entendais ça comme une grosse pomme de discorde, bien qu'en fait, j'ai voulu en sous-entendre davantage. Jetez un coup d'œil dans votre exemplaire de Rock Dreams et vous verrez le mythe lui-même, Lou Reed, d'allure plus jeune, innocent, qui se passe un doigt sur les lèvres, les yeux écarquillés, perdus dans une brume de Quaalud, tandis que Bowie rôde derrière lui, véritable Lugosi, les yeux brillants, prêts à frapper.
Kent, critique rock, écrivain.
Vous savez, Lou Reed était son héros. Reed pensait tout simplement que Banks était un crétin. Lester Banks était un artiste bien supérieur à Lou Reed. C'est un meilleur écrivain, quelqu'un de vraiment créatif. Lou Reed est un petit homme prétentieux qui a eu de la chance. Et Banks le vénérait. C'était une situation horrible. J'ai assisté à une interview. Lou Reed passait son temps à l'insulter.
Thinking back to that interview, I realized that Reed.
En y repensant des années plus tard, j'ai réalisé que Lou Reed méprisait Banks parce qu'il se détestait lui-même. Et le fait que Banks l'idéalise tant, pouvait pas l'accepter. Pourquoi Bang se droguait-il tant, buvait-il tant et faisait-il un tel cas de musique aussi médiocre que Transformer ou Sally Can't Dance? Dans les années 70, Lou Reed était vraiment quelqu'un de triste. Bang s'était fasciné par le côté autodestructeur. Et quand il a rencontré Lou Reed, il s'est dit, c'est tout, mais c'est mon héros.
He's my hero. He, you know, he doesn't care if he writes good songs or not. Doobie doobie doo. You know, glug glug glug.
I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head.
En 1975, Lou Reed sort l'album Metal Machine Music. Quatre phases de pur Larsen, d'une durée égale, 16 minutes, 1 seconde. Du bruit uniquement. Dans le livret de cet album OVNI, on peut lire un semblant d'explication de l'artiste. La plupart d'entre vous n'aimera pas ce disque et je ne vous en veux pas. Il n'est pas fait pour vous. En fait, je l'ai enregistré pour avoir quelque chose à écouter. Pourtant, la majorité des critiques s'accordent à penser que cet album n'est qu'un prétexte de Lou Reed pour se séparer de sa maison de disques. Pour Lester Bangs, c'est tout simplement le plus grand album jamais enregistré. S'il est vrai que Bangs perd parfois son discernement dès qu'il s'agit de son héros personnel Lou Reed, Metal Machine Music représente pour lui le disque parfait, à cause de sa fascination pour le bruit bien sûr, mais aussi parce qu'il met en évidence l'intégrité de Lou Reed dans son refus de produire de la musique facile et commerciale, et dans son côté punk aussi. Metal Machine Music est un album que chacun peut produire seul chez soi. C'est le grand pardon qui vient après les disques plus faciles que sont Sally Can Dance ou Transformer.
Si vous avez jamais pensé que le feedback était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la guitare, bon, Lou vient juste de se débarrasser des guitares. Je me rends compte que n'importe quel crétin disposant de l'équipement nécessaire aurait pu faire ce disque, y compris moi. Vous, Lou, c'est l'une des principales raisons qui font que je l'aime à ce point. Non seulement il vous rapproche de l'artiste, mais un de ces jours, si Dieu le veut, je pourrai faire mon Metal Machine Music à moi. En ce sens, c'est de la musique populaire. J'ai entendu parler de ce disque comme étant anti-humain et anti-émotionnel. En un sens, c'est le cas. Puisque c'est de la musique due plus à des magnétophones, des amplis, des haut-parleurs et des modulateurs qu'à quelque ensemble de mains et d'émotions humaines que ce soit. Et alors, presque toute la musique d'aujourd'hui est anti-émotionnelle et faite par des machines. D'ailleurs, tout disque qui amène ses auditeurs à fuir la pièce en hurlant qu'on mette un terme à cette flagellation orale peut difficilement être accusé, du moins par ses résultats, de manquer de contenu émotionnel.
Lester Bangs mène un combat pour un retour à l'authenticité du rock. La compromission et la corruption de l'artiste par les maisons de disques sont les plus grands péchés. Ses chroniques les plus assassines, Bangs les écrit toujours contre les professionnels du marketing de la musique, contre ceux qui, comme Bob Seger ou David Bowie, fabriquent leur art en l'ajustant au goût du public, en se jouant de leurs fans, en se composant des personnages selon les modes et les albums. Ainsi, David Bowie représente le début du rock à la manière d'Andy Warhol, où l'on sait que la célébrité ne durera pas plus d'un quart d'heure et où le seul moyen de durer est de se recomposer sans cesse. À chaque signe de préciosité, Lester Bangs attaque, avec une plume trempée dans le vitriol et un humour féroce. Dans la chronique de l'album Station to Station de Bowie, on peut ainsi lire « Beaucoup de fans se sont sentis grugés quand David a sorti Young Americans. J'ai toujours pensé que ces histoires d'extraterrestres, de Ziggy Stardust venu d'un autre monde, n'étaient qu'un ramassis de conneries, surtout de la part d'un type qui n'est pas foutu de monter dans un avion. » Je crois qu'il a écrit les pires paroles que j'ai jamais entendues de la part d'une personnalité pop. Des vers du genre « Time takes a cigarette and puts it in your mouth » proférés avec un visage si raide qu'on aurait dit qu'il allait se fissurer au moindre geste spontané. Et s'agissant de sa musique, c'est un voleur aussi accompli qu'Elton John. Standing in the same spot by a certain grave, Mary Ann was only 10, full of life and oh so gay. And I was the wicked man who took her life away. Very selfish. Oh God. No, Mr. GD, you won't tell. And just to make sure that you keep it to yourself, I've started digging holes, my friend, and this one here's for you.
Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, have him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
De nombreux critiques considèrent que le rock a commencé à décliner le jour où les artistes se sont mis à parler en leur nom, et non plus pour le public. Certains considèrent que ce moment est arrivé quand John Lennon a déclaré que les Beatles étaient plus importants que le Christ, provoquant la colère des fans, et mettant en avant le fait que le public ne s'intéresse pas à ce que pense l'artiste. Les fans voient dans les rockstars les porte-paroles de la jeunesse. L'ego surdimensionné des vedettes du rock'n'roll et le mépris grandissant pour le public seront les responsables de la mort du rock, qui est avant tout une expérience collective.
Je pense que vers le milieu des années 70, il y avait une sorte de pyramide, les fans, les critiques, enfin, les artistes.
Et
il y avait un véritable échange d'idées entre les trois groupes. Et que quand le rock est devenu cette énorme machine qu'il a commencé à être joué dans les stades, que ça s'est arrêté. À Altamont, les Stones marchaient dans la foule, leurs fans les arrêtaient, il n'y avait pas encore ces murs de sécurité entre les fans et les groupes, ou entre les critiques et les groupes. Lester pouvait passer des nuits, voire des semaines en studio à regarder Captain Beefheart enregistrer. Et Captain Beefheart lui demandait ce qu'il pensait de sa musique. Il y avait un dialogue qui s'est arrêté au milieu des années 70, et depuis, c'est plus pareil. Aujourd'hui, les accès sont contrôlés, vous avez droit à 15 minutes au téléphone avec un génie, et c'est à cela qu'est réduit le journalisme rock. Et quant aux fans, il n'est plus là que pour ouvrir son porte-monnaie.
Lester Bangs a toujours fantasmé le rock comme étant la seule forme d'expression réellement populaire. En témoigne son amour pour les groupes garage des années 60. En 1976, le mouvement punk qui démarre au CBGB à New York met son combat en pratique. Des bandes de gamins de banlieue qui savent rarement jouer d'un instrument commencent à se produire dans un bar minable d'un quartier périphérique de Manhattan. Leur programme, précisément, c'est le boucan libérateur et le « do it yourself », c'est-à-dire « tout le monde peut être musicien du moment que l'on a quelque chose à dire ».
Je crois que Lester considérait les Clash comme un groupe qui allait se comporter d'une manière jamais vue dans le rock'n'roll. C'était l'idée de la démocratie punk mise en pratique. Il n'y aurait plus de mur entre les fans et les groupes, qu'ils allaient concrétiser cette idée de « tout le monde peut le faire ». Au début, c'est ce qu'il a vu. Les fans des Clash dormaient sur le sol de leur chambre d'hôtel, ils brisaient les murs entre le public et l'artiste. Les Clash étaient vertueux, c'était son expression. Et à la fin de son article, on se rend compte que les Clash sont exactement comme n'importe quel groupe de rock. Quand leurs roadies commencent à brutaliser les gens du public, les Clash ne font rien. Les Clash sont les Led Zeppelin du punk rock. Ça peut paraître naïf de penser qu'un groupe peut s'approcher d'un mouvement politique comme les White Panthers. C'est surprenant, d'autant plus qu'il détestait ce côté politique.
Mais
à côté, il a toujours voulu faire du rock quelque chose qui soit plus que du simple divertissement. Et dans les Clash, il y avait une étincelle qui lui disait « voilà ce que ça pourrait être ». Il a oublié une leçon fondamentale, séparer la personne de son art. Une musique des Clash peut être vraie, peut inspirer, et les types du groupe peuvent être des gens ordinaires. Et c'est ce qu'il a mis en évidence dans son texte en trois parties pour le New Musical Express.
C'était la troisième partie des Chemins de la musique consacrée à Lester Bangs. Aujourd'hui, brûler les idoles. Demain, le punk rock américain.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 juin 2000. À suivre.